Grand Colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bien. Nous poursuivons. Alors là, nous ne changeons pas complètement de sujet puisque nous abordons la Chine, par rapport à la Russie. Alors, Madame Larry nous vient, j'allais dire, de l'autre bout du monde, ou presque pour nous. Alors, elle peut dire que c'est nous qui sommes au bout du monde pour elle. En tout cas, merci. Merci d'être venue et d'être là. Alors, le texte de la communication de Madame Larry est disponible en anglais. Si certains veulent la voir, ou après peut-être, mais vous vous exprimerez en anglais, c'est ça, hein?
Je vais essayer en français.
Ah, c'est comme si vous voulez.
Si j'ai des problèmes,
vous passerez à un dialecte. Bon. Madame Larry, nous vous écoutons.
Alors, je veux d'abord remercier Monsieur Pechelet de m'avoir invité ici. Ça me fait grand plaisir de venir. Et puis, également, je veux remercier mon professeur de français qui est ici, qui connaît Madame Marianne Bruchière, qui m'a enseigné le français depuis très, très longtemps. Et c'est grâce à elle que je peux m'exprimer en français. Je veux parler aujourd'hui de ce qu'on appelle en anglais ou en français la guerre civile en Chine. Mais je vais commencer d'abord par dire que ça, c'est un terme qu'on ne peut pas utiliser en chinois. D'abord, on ne peut pas traduire le mot « civil » en chinois. C'est un peu qu'on a décrit pour le Grèce. C'est impossible de traduire ce terme. Les Chinois ont plusieurs termes pour ce qu'on appelle la guerre civile. Le premier, c'est la guerre intérieure. Ça veut dire la guerre intérieure de l'État plutôt qu'une guerre internationale. Mais le terme qu'on utilise également, c'est le chaos. Chaos, parce que guerre civile, guerre intérieure veut dire qu'un État est plongé dans le chaos. Et de cette guerre va rien de bon. Alors j'ai commencé par une phrase de Sun Tzu, le philosophe de la militaire chinois de plus que 2000 ans, qui a dit qu'il n'y a aucun cas où une guerre prolongée a donné des bénéfices à un État. Alors ça, c'était très vrai pour la Chine entre les années 1937 et 1949. Je vais retourner à ces dates assez tôt. Pourquoi? Ça, c'est beaucoup plus long que normalement on décrive la guerre civile. La guerre civile en Chine date normalement de 1945, une guerre de 4 ans. Mais pour les effets sociaux qui m'intéressent surtout, la confusion sociale, la destruction de l'ancienne société, tout ça commence avec l'invasion japonaise de la Chine en 1937. Alors, après ça, la Chine a eu 12 ans de guerre. Et après, c'est difficile de dire quel est le pire. Mais les coûts étaient incroyables, dont des morts, des blessés et des gens qui ont perdu la société qu'ils ont connue avant. Alors, tout ça est terminé en 1949 et c'est de cette date on a eu deux noms pour cette guerre qui sont tout à fait différents. Pour les Chinois, les communistes qui ont pris le pouvoir, on décrit cette guerre comme la guerre de la libération. Et maintenant, on n'utilise pas ce terme, mais pendant très longtemps, on a parlé de avant la libération, après la libération. C'est un peu comme avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ça veut dire que la Chine était libérée en 1949. Quant aux autres, les gens qui étaient chassés de la Chine, ça veut dire le Kuomintang, le gouvernement de la Chine à la commencement de ces 12 ans de guerre, ça c'était ou une retraite stratégique ou la victoire, pas de la Parti communiste chinois, mais de l'Union soviétique. Parce que la Chine est tombée dans les mains des Rouges. Et le drapeau bambou est descendu sur la Chine. On nous a, et c'est devenu une partie du monde rouge. Tout ça a changé récemment. Alors, je veux dire, c'est à peu près 20 ans, mais beaucoup plus récemment, les interprétations de la guerre ont changé beaucoup. De la guerre, je vais quand même l'appeler la guerre civile. On parle maintenant beaucoup de ce qui a changé là-dedans. On parle aussi beaucoup plus de les effets de la guerre sur la société, surtout à Taïwan, mais également à Hong Kong et un peu moins à la Chine continentale. Et c'est très intéressant parce que jusqu'à les années, il y a 20 ans à peu près, il y avait très très peu écrit sur cette période. L'une des meilleures, c'est l'œuvre de Jacques Guillemard, qui a passé presque tout le temps de cette guerre en Chine et qui lui-même savait très bien les problèmes de loyauté, etc., qui lui-même a quitté l'ambassade de France en Chine pour se rejoindre avec De Gaulle, ce qu'on a comme dit à Latan, passé à la dissidence, qui lui a coûté beaucoup, mais qui après lui a donné la chance de retourner en Chine, encore à l'ambassade française, mais un ambassade différent après, avec une personnel différent. Alors moi, ce que j'avais écrit dans le papier, c'est surtout sur la question sociale. D'abord, en les divisant en deux parties, mais qui sont également très, très mêlées ensemble. La première, c'est la pression de la guerre, ce qu'on dit en chinois, la guerre anti-japonais, la guerre de la résistance. Tout ce qui était changé pendant cette période de 8 ans, et puis les changements qui sont venus de point de vue idéologique, surtout des communistes. Mais dedans, il a fallu, je vais les parler un peu, toutes sortes de changements dans la famille, la rupture de l'ancienne hiérarchie sociale, qui s'est pris prend le changement total des façons dont on a regardé les gens âgés et puis une autonomie beaucoup plus grande pour les femmes. Alors c'est vraiment je ne peux imaginer, c'est très difficile de parler de tout cela, alors je ne veux pas parler que à plusieurs façons. Le premier problème juste après la chute des Japonais, des armées japonaises, c'est quoi faire avec, ça veut dire, la plupart de la population chinoise qui ont vécu entre 7 ans et 8 ans sur l'occupation japonaise. Alors ça, c'est également une question de terminologie très importante. En anglais, et je pense même en français, on utilise le mot « collaboration », mais pas en chinois. En chinois, il y a des phrases qui sont... le premier, c'est très, très sévère, c'est « traître à la race chinoise ». Alors, si on est traître à la race chinoise, on est fini, n'est-ce pas? Et c'est... heureusement, le plus grand, pour lui, le plus grand traître à la race chinoise est mort un an avant la fin de la guerre. Alors, il n'était pas poursuivi, mais son corps était poursuivi. Son corps était... on dit son corps est spoté.
Pardon, a été démembré.
Oui, démembré et brûlé et tout ce qu'on pourrait faire. C'était... vraiment, les détails sont un peu difficiles. Après ça, on a eu une catégorie qui est aussi très nombreuse, mais pas tellement, c'est les gens qui ont eu des relations avec l'ennemi. Ça veut dire des commerçants, des petits bureaucrates, toutes sortes de monde qui n'avait pas la possibilité de résister à faire ça. Et puis, les plus nombreuses de la population, c'est les gens qui ont survécu, qui ont vécu ces années. Et si quelqu'un a vu un très joli film qui appelle en anglais « To Live », il fait peut-être 10 ans déjà, mais c'est cette sorte de gens. Qu'est-ce qu'on a fait? Le Kuomintang, le gouvernement, à poursuivre un certain nombre de traîtres de la race chinoise, mais pas beaucoup. Mais ce qu'ils ont fait, et ils ont fait ça avec grand plaisir, c'était dès qu'ils sont rentrés dans la Chine orientale, ils ont fait partout une expropriation des biens des gens qui ont vécu sur les Japonais. Alors, leur maison, leur voiture... les entreprises, tout ce qu'on peut prendre, ils ont pris. Et ça veut dire que pour la bourgeoisie, c'est surtout en ville, n'est-ce pas, ils sont à peu près ruinés parce que c'était non seulement question de prendre ce qu'ils ont, mais aussi qu'on a fait des choses avec occupation currency. Alors, c'était changé. C'était la banqueroute pour presque tout le monde. Et je vais donner comme exemple un peintre très, très connu, Chi Ba-shi, qui était à Pékin, qui n'a pas vendu ses peintures aux Japonais, mais qui avait quand même assez d'argent, mais qui se trouve tout d'un coup absolument... au désespoir. Il avait plusieurs femmes, 12 enfants et une quarantaine de petits-enfants. Et c'est seulement lui à la famille qui gagne quelque chose. Alors il s'est approché à le général de l'armée Kuomintang et il lui a donné un peintre, un picture. Et pour ça, il a reçu du riz et du charbon. Et c'était pour le général Lee, c'était un très bon échange parce que maintenant, cette sorte de peinture de Chi Ba-shi est beaucoup plus valable qu'un peintre de Picasso. Et c'est peut-être sa famille qui l'a toujours, ou peut-être c'est déjà vendu. En même temps, le Kuomintang n'a absolument pas réussi à contrôler une inflation galopante qui a plus ou moins détruit la vie commerciale des villes, des grandes villes de la Chine. J'ai vu donner plusieurs exemples, mais ça veut dire que tout le monde qui n'était pas lié avec le Kuomintang est devenu pauvre tout d'un coup. Et ça a des influences énormes sur les familles, parce qu'un chef de famille qui ne peut pas nourrir sa femme, ses enfants, ses parents, est au désespoir. Et il y a un jeune chercheur chinois qui vient d'écrire un très joli livre sur les femmes qui ont quitté le mari à ce temps-là parce que le mari ne gagne plus suffisant pour la vie de la famille. Il a découvert tout ça dans les archives à Pékin. Contrairement, la partie communiste a fait des choses tout à fait différentes du point de vue de ceux qui ont vécu sur les Japonais. Et ils l'ont traité tous, pas tous, mais ils l'ont traité dès qu'ils ont pris pouvoir dans un village ou à la campagne, et c'était surtout à la campagne qu'ils étaient. Ils ont lancé des campagnes contre les traîtres. Alors, qui étaient les traîtres? Les traîtres étaient souvent les chefs des villages. Ils étaient des hommes qui ont dû, ont dû donner aux Japonais des jeunes gens, des jeunes garçons pour le forced labor, et les jeunes filles pour être des esclaves sexuels. Absolument horrible, mais ça s'est passé partout à la campagne, à la nord-est, nord et nord-est de la Chine. Maintenant, ces gens-là, dès que les communistes arrivent, étaient classés comme traîtres et ils étaient souvent tués. S'ils n'étaient pas tués, tout leur bien était saisi. Ce qui ça a achevé, c'est de rompre les relations des clans en Chine. Parce que à ce temps-là, et même si on regarde les noms toujours, la plupart des villages ne comprennent qu'un ou deux clans. Alors, toutes les familles ont le même nom de famille et ils ont lié d'une façon très proche de sang, n'est-ce pas, de descente commune. Ça, c'est après qu'on a lancé une campagne contre les traîtres, ça s'est rompu tout à fait. Et ça, c'est une énorme influence. Parce que qu'est-ce qu'on a fait avec les biens qu'on a pris? On les donnait aux plus pauvres dans des villages. Je crois que beaucoup d'entre vous ont lu le bouquin de William Hinton, Fan Shen, qui décrivent ce processus. Mais il y a un problème avec ça, c'est qu'il a traduit le nombre de familles en anglais comme longbow, mais afin de constituer c'est un des noms de famille les plus communs en chinois, Zhang. Et c'était un village des Zhang. Il n'y avait rien à faire avec Longbow. Alors ça, c'est un effet énorme. Déjà, toujours après le commencement de la guerre civile, qui vraiment a commencé même avant la chute des Japonais. Mais il y avait des autres façons qui sont continuées de la même sorte. Pendant la guerre de la résistance, il y a énormément de séparations familiales. Des jeunes et les soldats sont passés à l'ouest de la Chine, qui restait toujours sur les Kuomintang, et ils ont passé très longtemps séparés de leurs parents, de la famille. Pour beaucoup, c'était quelque chose de bien, parce qu'ils ont eu ils ont choisi leur partenaire de mariage, n'est-ce pas, pour l'amour, pas pour les arrangements des parents. Alors, Ça, c'était pas mal du tout. Mais pour ceux qui ont resté, qui n'ont pas parti, et c'est naturellement la plupart de la population, ils ont vécu des années très, très difficiles. Maintenant, après le commencement de la guerre civile, les séparations continuent. Sauf qu'il y a un ajoutement, c'est les séparations maintenant politiques aussi, parce que beaucoup, beaucoup de jeunes commencent à se mettre vers la partie communiste, parce qu'ils regardent le Kuomintang comme une partie finie à peu près. Et c'est à cause de la corruption qui est à peu près, pas totale, mais énorme. Le parti promit beaucoup aux jeunes, mais pas de point de vue des biens, mais pour se sacrifier pour les biens de la partie communiste et du pays. Ça, c'est une question que j'avais parlé en plus grand détail, parce que je ne sais pas combien de temps est-ce que j'avais toujours.
Une demi-heure, mais allez-y.
Une demi-heure?
Oui.
Encore une demi-heure.
Non.
Je pense que j'ai déjà fait la moitié de mon temps. Alors, pour ça, je ne veux pas parler trop de la économie familiale, parce que j'en ai parlé un peu déjà. Mais je veux parler d'une question. C'est également une nouvelle recherche très intéressante qui a fait et la guerre de la résistance et puis la guerre civile. Et c'est la destruction écologique, surtout au nord de la Chine, et surtout sur la fleuve jaune. Alors, en 1938, les armées de la Kuomintang ont ouvert un des diques de la fleuve et pour empêcher aux armées japonaises de marcher vers l'ouest. Et ils ont fait ça, mais pendant la flood, ont mouru au moins 1 million de paysans, ou même plus. Juste après la chute des Japonais, les Nations Unies, les nouveaux Nations Unies ont eu, c'est le plus grand projet au monde, c'était de fermer cette rupture dans les diques. Mais la terre était quand même tout à fait détruite. Alors je veux mentionner ça seulement parce que c'est un nouveau bouquin d'un jeune professeur à Oxford qui vient d'apparaître. Qui s'appelle Muscolino, mais c'est un bouquin très, très intéressant sur les effets de la guerre sur l'écologie. J'ai parlé un peu des questions des femmes, et ça se laisse voir dans un des films les plus célèbres en Chine de ce temps-là, c'était La fleuve du printemps coule vers l'est. C'était une drame. Si vous avez l'occasion de le voir, ça vaut la peine, mais il faut quand même être préparé de pleurer parce que c'est ce qu'on appelle en anglais un too hanky film. Alors, il faut deux mouchoirs pour. c'est une femme qui a resté sous les Japonais pour garder un enfant et la mère de son mari et le mari qui est parti à l'ouest a choisi une nouvelle femme et quand il est rentré à Shanghai, il a fait venir la deuxième femme et la première s'est jetée dans le Huangpu à Shanghai. Alors, c'est très court, mais ça va vraiment la... Si on a un week-end sans rien à faire, ça vaut vraiment la peine à le voir. Les communistes ont bien fait du point de vue de propagande pour les femmes. Ils ont promis la fin de la polygamie, et ils ont promis pour les femmes un rôle dans la lutte pour le socialisme. Afin de compte, ce n'était pas très réussite. Les chefs, au moins, ils ont continué. Ils étaient toujours contre polygamie, mais pour ce qu'on appelle une monogamie séquentielle. Alors Mao a eu 4 femmes et Liu Shaoqi, le chef de l'État, en a eu en 10 au moins 6 femmes, l'une après l'autre. parce que on a fait que le divorce était très facile. Les questions des jeunes. J'avais parlé dans mon papier également, c'est très intéressant, mais à point, pour la question de temps, je veux parler un peu des questions sociales à la fin de la guerre. Ça veut dire les deux années, 1948-1949. À ce temps-là, on sait déjà que les communistes ont déjà pris presque la moitié de la Chine. C'est plus ou moins fini. On sait déjà qu'ils vont succéder très probablement à gagner la tout ensemble de la Chine. Alors, à ce point-là, il y avait, pour ceux qui ont les moyens de partir, la question de s'ils doivent partir ou s'ils vont rester. Et tout le monde a choisi, qui a eu le moyen, c'est des gens qui ont de l'argent, des gens qui peuvent trouver les postes à l'extérieur, des gens qui connaissent l'anglais ou des autres langues. Mais pour énormément de monde, il y a une question, rester ou partir. Et c'est surtout, j'avais parlé seulement maintenant des intellectuels, mais c'était également pour, par exemple, les entrepreneurs de Shanghai, dont beaucoup est parti pour le Hong Kong. Et j'ai parlé aussi des gens qui ont déjà à l'extérieur, mais qui ont resté, ou dont les parents ont resté à l'extérieur, de peur de rentrer chez eux. Alors, ceux qui ont resté, c'est les premiers scientifiques chinois d'avoir le prix Nobel, c'est Franklin Yang et Teddy Li. C'était très, très gênant pour le gouvernement à Pékin. IMP, que vous connaissez tous pour son diamant, il était étudiant en Amérique, mais il n'a jamais retourné à ce point-là en Chine. Et puis, ceux qui ont les parents qui sont restés ici, y compris François Cheng, qui est membre de l'Académie française, Yo-Yo Ma, c'est le gens qui joue au cello. Alors, finalement, ce n'était pas très poli, finalement, ces gens ont dû rester à l'étranger jusqu'au moins aux années 1980. Alors, ils se sont séparés de la famille au moins pour 40 ans. Et pour beaucoup d'entre eux, même plus. Les gens qui sont partis ont dû aussi prendre une responsabilité très lourde parce que les gens qui ont laissé derrière eux ont souffert beaucoup à cause d'avoir de la famille à l'extérieur, surtout s'il était à Taïwan. La victoire paraît d'abord en 1900, c'était le printemps vraiment de 1949, paraît pas une grande victoire. Et ça, c'est Guy Hamas qui écrive l'entrée de l'armée de la peuple à Nankin, c'était le Capitole à l'OTAN, mal équipé, uniforme de toile jaune moutarde, très fatigué, boudin de riz en bandolière, au pas de route et plutôt en désordre. Ils passaient en silence et semblant épuisés. Ce n'était pas une entrée victorieuse dans une grande capitale conquise, mais la fin d'une longue et pénible étape. Ça a plutôt changé parce qu'au mois d'octobre, on a décidé de mettre le capital à Pékin ou à Beijing, où il s'est toujours. Et ça a donné, c'était un triomphe. Ma conclusion, on pense que les pertes de la guerre civile en Chine à ce temps-là étaient sans conséquence parce que le slogan de la partie communiste, c'est que les affaires des individus, n'importe comment grandes, sont tous petits, des affaires petites. Mais ce qu'on reconnaît maintenant, c'est que ça, ce n'est pas vrai du tout. Que ce qui s'est passé dans la guerre civile a rompu grand-chose en Chine, a donné des choses absolument pénibles à énormément de familles, a gâté les vies d'énormément du monde, et puis à aider, parce que c'était tellement amer cette guerre, à aider, comme Mme Thomo a parlé ce matin, non pas ce matin, cet après-midi, ils ont appris comment être vraiment horrible et terrible contre les gens qu'ils n'aiment pas. Alors il y a un historien hollandaise qui a écrit trois bouquins sur les choses qu'ont a fait la partie communiste. Il s'appelle Frank Dakota. Il enseigne actuellement. Il est bien courageux parce qu'il enseigne en Chine, à Hong Kong, il est vrai dire, mais c'est quand même une partie de la Chine maintenant. Aussi également, ce qu'ils ont donné aux Chinois qui ont survécu cette période, c'est une capacité de résilience. Et quand j'ai écrit le bouquin qui va paraître au mois de février, j'avais pris beaucoup des œuvres de Boris Cyrulnik, c'est probablement pas prononcé comme il faut, qui a parlé des dommages permanents, mais de la résilience. Alors, j'ai trouvé ça très, très utile. Ce qui d'autre est toujours là, c'est que le Taïwan, c'est toujours indépendant, sans aucune possibilité qu'on peut prévoir à l'instant d'être réunifié avec la Chine. Hong Kong est toujours pas tellement heureux dans l'embrasse de la pays maternel. Et vous avez tous vu récemment la révolution des parapluies qui continue quand même. Et ça veut dire que la partie communiste a gagné sans question, mais ce n'était pas une victoire totale. Merci.
Merci, madame, et merci pour votre effort pour parler français. Mais enfin, on vous a suivi. Enfin, bon. Et quand il s'agit de la Chine et quand ça va mal en Chine, on est toujours effrayé par les chiffres, par les proportions.
Ah oui, c'est ça, oui.
On fait sauter des digues du fleuve jaune, 1 million de morts, enfin bon. Bon, merci. Bon, le temps passe, je donne tout de suite la parole à M. Pellistrandi, qui a été pendant un certain nombre d'années, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance, directeur des études de la Casa de Velázquez, je ne sais pas si je prononce bien, à Madrid, section moderne
et contemporaine.
Voilà, et qui, de retour de Madrid, est actuellement professeur d'histoire dans une classe préparatoire, dans une cagne, quoi.
Oui,
où ça?
À Condorcet.
À Condorcet, bon. Eh bien, vous avez la parole. Il a publié, enfin bon, vous savez probablement, un livre récemment sur la guerre civile, ce qui explique pourquoi il est ici et qui est déjà un classique sur le sujet.
Merci, Monsieur Bechler, et j'en profite pour vous remercier pour cette invitation qui m'honore beaucoup. Mais effectivement, dans un colloque sur la guerre civile, comment ne pas parler de la guerre d'Espagne ? Le titre que j'ai proposé pour cette communication, c'est « La guerre civile espagnole, une guerre inévitable ou une guerre inéluctable ». Et je pense que c'est intéressant pour réfléchir sur cette notion de guerre civile, pour effectivement comprendre à la fois l'enchaînement des événements, mais aussi les conditions sociales, politiques et culturelles qui aboutissent à la guerre civile. Mais poser la question de cette inéluctabilité de la guerre civile espagnole, n'est-ce pas déjà y répondre ? Or, la méthode de l'historien doit veiller à laisser ouvert les possibles du présent de l'époque pour ne pas verser dans une lecture théologique des événements. Le questionnement commande donc partie de cette méthode, et en posant d'emblée l'hypothèse du caractère inévitable de la guerre civile qui a vu les Espagnols s'affronter du 18 juillet 1936 au 1er avril 1939, ne risque-t-on pas d'imputer à la guerre des raisons et des causes qui dépassaient la libre décision des acteurs politiques et sociaux ? Plusieurs tentations menacent, me semble-t-il, qui abordent ce sujet. La première consisterait à voir dans la répétition des guerres civiles espagnoles à l'époque contemporaine, je fais naturellement référence aux guerres carlistes du XIXe siècle, 1833-1839 pour la première, 1854-1856 pour la seconde, la deuxième, pardon, et 1872-1876 pour la troisième, l'expression d'un caractère national porté à la pratique de la guerre civile. La guerre civile serait donc culturelle en Espagne, quand bien même elle pourrait être naturelle si on lit les historiens du XIXe siècle qui exaltent les vertus guerrières des Celtibères, des Basques, puis des Espagnols, telles qu'elles s'exprimèrent dans les hauts faits qui habitent l'imaginaire nationaliste. La deuxième tentation conduit à percevoir dans le développement, dès les années 1910, mais surtout à partir de 1917, d'une violence politique et sociale, les prémices d'une explosion plus forte et qui sera la guerre civile, ignorant alors les causes singulières qui déclenchèrent la guerre. Une troisième tentation mélange, dans une même perception, les causes de la guerre, son déroulement et son résultat, faisant de la victoire et du pouvoir franquiste le prolongement de la guerre. Malgré la défaite de la République, la guerre ne serait pas finie. Et cette interprétation n'a pas été sans avoir une forte présence dans le débat politique, social et culturel en Espagne au tournant des 20e et 21e siècles. J'y reviendrai. Ces trois tentations ont pour point commun d'ignorer la spécificité de la guerre qui court, je l'ai dit, de 36 à 39, pour la transformer en un quasi-paradigme de l'histoire. Elle n'est plus un événement à expliquer puisque c'est elle qui expliquerait l'Espagne contemporaine. Mais ne doit-on pas, en historien, prendre acte de ces configurations qui, en réalité, disent de notre objet sa tonalité et son intensité ? Et donc, pour reprendre ce dossier de la guerre civile espagnole dans le cadre de la démarche comparatiste et globalisante de ce colloque, je voudrais montrer, à travers une rapide réflexion sur les origines de la guerre civile, ensuite sur la guerre civile comme possible espagnole, et enfin, sur, naturellement, l'internationalisation de la guerre civile qui en change le caractère, montrer comment la guerre civile convoque des niveaux d'analyse qui l'éclairent chacun à leur manière. Le premier ensemble des questions, donc, qui apparaît, est bien celui des origines. Elle va au-delà des causes immédiates qui convoquent une analyse politique de la situation du pays à partir de 1931, quand, vous le savez, la République fut proclamée dans un enthousiasme quasi-révolutionnaire. Et la preuve, c'est quand même qu'à Madrid, le 14 avril 1931, on chante l'Internationale, mais aussi la Marseillaise. Alors pour que les Espagnols chantent la Marseillaise, il fallait que vraiment, il y ait eu un changement complet de l'atmosphère. Manuel Azaña avait théorisé ce que devait être la République espagnole et il l'inscrivait dans une histoire de longue durée. expliquant en 1924, dans un texte intitulé « Pour la République », qu'il existe deux modes de gouvernement, l'absolutisme irresponsable, c'est-à-dire l'Ancien Régime, et le libéralisme organisé en démocratie. Il constate, ou il estime, que depuis le XVIe siècle, l'Espagne a connu l'hégémonie de l'absolutisme, tandis que le libéralisme n'a jamais été que l'objet d'expériences sans lendemain en Espagne. En vérité, la lutte pour le libéralisme est un combat séculaire, et en 1930, toujours ce même auteur, je dirai plus tard qui il est, affirme « Ce bouleversement que nous prédisons pour l'Espagne doit être lié non seulement à la péripétie que nous devons vivre, il fait allusion à la fin de la dictature de Primo de Rivera, mais à l'histoire de tout un siècle. Il faut faire en Espagne une série de destructions définitives. Située sur un plan historique, notre lutte est claire. Nous devons faire ce que nos aïeux ne firent ni en 1820, ni en 1823, ni en d'autres occasions. Entre le passé de l'Espagne et son avenir, il faut mettre un fait irréparable que nous ne pourrons pas oublier, que nos adversaires ne pourront pas nous pardonner et qui nous liera définitivement pour la vie et en conscience à l'œuvre commune républicaine qui est la liberté de notre patrie. » Ce n'est pas du Lénine, mais il y a quand même l'idée d'une rupture sur laquelle on ne reviendra pas. Or, vous le savez, Manuel Azaña sera l'un des hommes clés de cette République espagnole. Il portera en 1931 le projet constitutionnel et défendra avec ardeur la séparation de l'Église et de l'État. Puis, en 1932, c'est lui qui sera le modernisateur de l'armée. Enfin, à partir de mai 1936, il est élu président de la République, mais chef de l'État, il assistera en réalité impuissant à la destruction de ce qui fut son rêve républicain. En 1937, en Angleterre, est publié un petit livre du professeur José Castillejo, intitulé « Guerre d'idées en Espagne ». Il s'agit en réalité d'une histoire de l'éducation, mais elle débouche sur une réflexion sur les causes de la guerre civile. L'auteur, qui évoluait dans la mouvance de l'Institución Libre de Enseñanza, c'est-à-dire le camp libéral, laïque et progressiste de la culture espagnole, explique que les conditions politiques et religieuses de l'unité espagnole ont éclaté au XIXe siècle, tandis que subsistait, je cite, « l'étalon or de la vie nationale », à savoir le droit romain qui protégeait les contrats, la propriété et les testaments. Mais quand la République a commencé son œuvre législatrice, explique-t-il, ce socle s'est effondré, provoquant une insécurité sociale qui affecte des groupes sociaux précis, groupes suffisamment puissants pour organiser ce qu'il appelle une contre-révolution. On dispose là de deux indices qui nous révèlent l'ampleur du différend qui oppose les Espagnols entre eux. Entre 1931 et 1936, la République n'entend pas moins que de reconfigurer le pays et la société. J'emploie à dessein le mot « république » et pas celui de « républicain ». La puissance publique est devenue l'incarnation de ce projet porté par les militantismes républicains. Et c'est en tant que prétention à l'expression de la volonté nationale et historique que la République suscite opposition et crainte. L'armée et l'Église porteront la parole de ces oppositions parce qu'elles sont des forces sociales, culturelles et historiques. Leur enracinement dans la société, leur propre prétention à incarner l'histoire et l'identité espagnole, leur confère une force qui se mobilisera pour le combat le moment venu. Une analyse des causes de la guerre civile devra donc passer par l'étude des origines politiques, des origines socio-économiques et des origines religieuses et culturelles. La difficulté réside dans l'élaboration de l'enchaînement des causes, et on le constate d'ailleurs dans l'historiographie. Par exemple, en mettant l'accent sur la fracture qui oppose les catholiques espagnols aux tenants de la laïcisation, n'impute-t-on pas à la République une responsabilité dans le déclenchement de la guerre, alors même que le récit précis des événements montre bien qu'il y a comme facteur déclenchant un soulèvement militaire hors la loi et une attitude factieuse de la part de ceux qui étaient soumis au pouvoir civil. S'il y a consensus entre les historiens pour dire que la guerre est née de la résistance à cette tentative de coup d'État, et il faut quand même comprendre pourquoi cette résistance a été aussi forte et a conduit à la guerre. Car si le coup d'État avait réussi, je ne serais pas là pour traiter de la guerre civile espagnole, et peut-être vous m'auriez invité pour parler des guerres carlistes. Il y a donc une contradiction apparente à vouloir penser que des causes profondes ont pu préparer le terrain à un affrontement et l'observation objective des événements de juillet 1936. Et en s'interrogeant sur les origines religieuses de la guerre, ne risque-t-on pas de justifier le soulèvement? Et en tout cas, c'est pendant longtemps que la question a été envisagée par l'historiographie espagnole, d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre. De même, une attention aux profondes inégalités qui caractérisaient le monde rural espagnol rend compte de la possibilité d'une véritable guerre sociale. Car la guerre civile espagnole fut aussi une guerre sociale. La radicalisation révolutionnaire de certaines forces n'est pas due qu'aux seules circonstances politiques et partisanes. L'anarchisme a su mobiliser massivement parce que les conditions d'une révolte agraire étaient réunies et dans certaines villes, ce fut l'engagement au service de l'émancipation du prolétariat qui alimenta cette radicalisation à gauche. Cette fois-ci, l'argument peut servir de justification à l'entreprise révolutionnaire qui accompagna la République en guerre. Bref, en explorant les causes de la guerre, on replonge dans les débats qui conduisirent et permirent la guerre. L'historiographie demeure un terrain d'affrontement politique et épistémologique. Julio Arostegui, dans son livre « Pourquoi le 18 juillet et après ?», publié à l'occasion du 70e anniversaire de la guerre civile, c'est-à-dire en 2006, n'hésite pas à écrire « Pourquoi le 18 juillet est la question la plus difficile que l'on peut formuler au sujet de la guerre civile ?» Le « pourquoi », estime-t-il, débouche sur la question des causes qui mobilisent des temporalités différentes. La guerre civile n'est plus le résultat d'actions individuelles et collectives qui, à l'été 1936, ont débouché sur le coup d'État, mais devient le signe des contradictions du développement historique de l'Espagne. Alors on l'a vu pour Manuel Azaña depuis 1808, voire même le XVIe siècle, pour Julio Arostegui au moins depuis 1876 et la restauration des Bourbons et la tentative d'un libéralisme parlementaire. La longue durée de la guerre modifie l'appréhension que l'on a de l'événement et lui donne cette épaisseur historique et identitaire qui continue de marquer définitivement la compréhension que l'on a de l'Espagne. La question que l'on peut en tirer, me semble-t-il, par rapport à la thématique du colloque, est celle du lien qu'une guerre civile a avec l'identité nationale et la culture politique, et aussi de la durée de ce lien. Nous ne sommes qu'à 78 ans du début de la guerre, c'est encore très tôt. Et on ne sera pas là dans deux siècles pour voir comment on en parlera, mais ce serait sans doute intéressant. Espérons. La guerre civile comme possible espagnole. Dès lors que l'événement est interrogé dans sa longue durée, apparaissent les précédents qui pourraient l'annoncer. Le XIXe siècle espagnol, je vous l'ai dit, est marqué par au moins trois épisodes de guerre civile. Mais on peut légitimement se demander si la guerre d'indépendance contre Napoléon ne fut pas en partie une guerre civile. Les afrancesados furent, et dans l'historiographie espagnole on l'utilise enfin ce mot, des collaborateurs. Et l'épuration de 1814 les écarta de la vie sociale et culturelle. Plus profondément, la vie politique jusqu'en 1931 reste marquée par la violence. En 1823, l'expédition des 100 000 fils de Saint-Louis, qui rétablit Ferdinand VII dans la plénitude de son pouvoir royal et qui marqua la fin de la reprise de la Constitution de 1812, fut suivie de ce qu'on appelle la décennie odieuse, une période d'atroce répression des adversaires que symbolisa à jamais dans les mémoires le martyr du colonel Riego qui était l'initiateur du coup d'État constitutionnel libéral de 1820. La peine de mort en matière politique était systématiquement utilisée et la mémoire du libéralisme espagnol porte en elle les images de ces épisodes. Il y a une grande toile du peintre Antonio Gisbert qui est l'exécution de Torrijos, c'était un groupe libéral qui avait débarqué depuis l'Angleterre sur les plages de Malaga, et cette grande toile qui est souvent reproduite sur tous les manuels d'histoire du XIXe siècle espagnol est désormais très bien accrochée au Prado. Et on doit à ce même artiste libéral qui a peint vers 1880 un autre tableau très célèbre qui est l'exécution des chefs de la révolte des Comuneros de Castille en 1521-1522, et les comuneros qui passent dans la tradition historique pour les initiateurs du libéralisme castillan. Et c'est même au mouvement des comuneros que les républicains ont emprunté la frange violette du drapeau républicain espagnol à côté du sang et de l'or. Donc, ça permettait au libéralisme de dénoncer une même fatalité de mort qui courait à travers les siècles. L'inextricable lien entre violence et politique que décèle le moindre observateur de la vie politique espagnole jusqu'en 1931 ne peut donc qu'inscrire dans la continuité de cette réalité les violences politiques sous la République et l'explosion généralisée de violences à partir de juillet 1936. D'où l'interrogation qui en découle et qui semble suggérer l'hypothèse d'une singularité espagnole, voire d'une disposition historique. Le grand historien Ramón Menéndez Pidal, dans son introduction à l'histoire générale de l'Espagne, emprunte à Goya et à son tableau « Duel à coups de gourdin » le symbole d'une Espagne qui se déchire dans la guerre fratricide. Je cite la légende qu'il met dans son livre « Goya ne représente-t-il pas la lutte impitoyable à laquelle se livraient absolutistes et constitutionnels, l'interminable duel mortel des deux Espagnes que Lara formulera plus tard ?» Lara, c'est un publiciste qui meurt en 1837 et qui avait dit de l'Espagne « Sigille la moitié de l'Espagne, tuée par l'autre moitié ». C'était en 1836, au sortir de cette décennie odieuse et en pleine guerre carliste. Il semble bien quand même que cet écrivain a eu une préscience, car le général Franco, interrogé en 1937 par un journaliste américain, n'hésite pas à dire qu'il se tient prêt à fusiller la moitié de l'Espagne si cela peut sauver l'autre moitié. Vous le voyez, la violence politique est bien une question centrale pour comprendre la guerre civile. Mais son analyse doit être historique et non relevée d'une caractérologie nationale. Une culture du conflit existait en Espagne, certes, mais n'était-ce pas plus largement le cas en Europe ? Et ce qu'on a entendu tout au long de ce colloque le montre. En outre, de quelle période parle-t-on ? Le cheminement du libéralisme et des idéaux de souveraineté populaire nés dans la Révolution française a été partout semé de violence. L'Espagne, de ce côté-là, n'est pas le seul théâtre de guerre civile, ni au XIXe, ni au XXe siècle. Et le grand hispaniste américain Stanley Payne, révisant l'approche traditionnelle de guerre, a insisté sur une comparaison nécessaire entre la guerre d'Espagne, mais aussi les guerres civiles finlandaises, entre 1917 et 1918, russes, mais aussi sur les guerres yougoslaves, 1941-1945, et grecques, 1944-1948. Bien sûr, vous l'aurez constaté, tout de suite, une géographie apparaît qui nous situe aux périphéries de l'Europe. Est-ce là un indice ? Sans aucun doute, effectivement, celui de la difficile acclimatation de la démocratie libérale et celui de la coexistence dans ces régions de cercles sociaux radicalement distants dans leur évolution économique et politique. Mais revenons au problème de la violence politique entre 1910 et 1930. Elle est d'abord le fait de la gauche révolutionnaire, mais aussi, en réaction, du patronat qui s'arme. Barcelone, entre 1917 et 1922, est le théâtre d'assassinats politiques et sociaux. On en dénombre 943 sur ces 6 années-là et 121 dans les autres grandes villes, Madrid, Saragosse, Bilbao, Séville et Valence. Dans les années 1930, la Falange, le parti fascisant de José Antonio Primo de Rivera, diffuse un discours belliciste permanent. Je cite « Il n'y a pas d'autre dialectique admissible que la dialectique des poings et des pistolets quand la justice et la patrie sont offensées. » Ou encore « Il faut sortir dans la rue un fusil à la main pour défendre l'Espagne. » Et, en dernier ressort, c'est toujours un peloton de soldats qui a sauvé la civilisation. Mais l'extrême droite espagnole n'a pas le monopole de la violence et la brutalisation des sociétés européennes a été détectée en son temps par l'historien Georges Moss et elle n'a pas épargné l'Espagne. Se produit cependant un changement d'intensité qui est aussi changement de nature entre la violence politique sous la République et celle pratiquée à une échelle nationale pendant la guerre. Là encore, si la violence a préparé le chemin de la guerre, il n'y avait pourtant nulle fatalité, me semble-t-il, à ce qu'elle dégénère en une explosion de cruauté avec des pics clairement identifiés pendant les premiers mois de la guerre, puis à la fin du conflit. Et il ne faut pas, sous prétexte d'une prudence et d'une neutralité méthodologique, ignorer que toutes ces actions ont relevé de décisions humaines et qu'elles ont donc des responsables. Elles étaient moins inévitables que leurs auteurs n'ont voulu le penser, mais moins accidentelles et moins nécessaires qu'ils ne l'ont eux-mêmes cru. La logique de guerre n'explique pas tout. Il fallait que les esprits aient été préparés par un discours de haine, ou plutôt par des discours de haine et de fabrication de l'ennemi, pour que les bras deviennent meurtriers. La question qui nous attend alors est de savoir à partir de quand ces esprits ont été préparés. S'agit-il de l'effet de la conjoncture des années 30, où là encore, la longue durée doit-elle être convoquée? Et quelle longue durée? Celle des représentations mentales que trahissent les comportements du début de la guerre quand, à l'incendie des églises et aux persécutions religieuses, répondait le meurtre des instituteurs et des militants républicains. Je rappelle pour la répression religieuse qu'il y a 6800 religieux qui sont assassinés, dont à peu près 90% dans les premiers mois de la guerre. Et quand on lit en plus le détail de ces exécutions, c'est évidemment un massacre. Ou faut-il remonter effectivement au dissentiment entre libéralisme et absolutisme, alors même que le pays avait fait l'expérience de régime constitutionnel et bien établi depuis 1876. Alors n'est-ce pas plutôt du coup la courte durée de la révolution qui devrait faire ici l'objet de l'analyse? Il y a désormais un consensus historiographique pour dire qu'avec la radicalisation du gouvernement issu des élections de février 1936 et des forces politiques qui le soutiennent, la dimension révolutionnaire de l'action républicaine fut renforcée. La rapidité avec laquelle des contre-institutions s'organisèrent en juillet 1936, à la suite de l'effondrement de l'appareil d'État à cause du soulèvement militaire, révèle la capacité des organisations politiques et syndicales à s'engouffrer dans le vide ainsi créé. La puissance des milices paramilitaires, un phénomène auquel d'ailleurs Franco coupera court dans le camp nationaliste en imposant son autorité et en fusionnant les partis dans un parti unique dès avril 1937, est propre à une situation révolutionnaire. Il est clair que l'État espagnol a perdu le monopole de la violence et sans doute l'avait-il déjà en partie perdu, donnant du coup à certains de ses serviteurs l'idée de travailler à sa récupération. Et Franco n'obéit-il pas à ce type de motivation? Le problème est que l'armée n'était pas unie dans ce projet de coup d'État et que celui-ci fut d'ailleurs le fait que d'une partie seulement de l'armée. Aussi, le projet d'intervention et de réorientation de la politique gouvernementale se brisa-t-il sur les résistances qu'il suscita, tant dans une partie de l'armée que dans une partie de la population. Et lorsque le coup d'État échoue, et que très vite il apparaît que l'Espagne est dans une guerre civile, j'ai regardé les titres des journaux français. Dès le 20 juillet, le Figaro parle de guerre civile. L'Humanité attend le 21 juillet. Le coup d'État est du 18 juillet, ça veut dire quand même 3 jours après. Donc il y a quelque chose là. On ne crée pas le terme guerre civile au bout de 3 jours s'il n'y a pas le sentiment que les conditions étaient réunies. La guerre devient un problème international. Vous le savez, la guerre d'Espagne donc s'est internationalisée très vite. Prenez le cas de Malraux qui part, je crois, 4 ou 5 jours après le début des événements. Et en 1937, il publie son roman L'Espoir et qu'il promène de façon internationale pour promouvoir la cause républicaine. On mesure là la rapidité de la transformation de la guerre en un événement mondial. Toujours en juillet 1936, les chancelleries européennes mesurent qu'un nouveau foyer de tension vient de s'embraser et qu'il menace les équilibres européens. La conférence de Londres, à la mi-août 1936, établit le principe de non-intervention, alors même que le champ de bataille espagnol est déjà investi par l'Italie de Mussolini et que l'Allemagne de Hitler prête son concours aux insurgés. Staline est là qui prépare la voie à une intervention communiste décisive. D'ailleurs, d'un point de vue matériel et humain, l'intervention étrangère est massive. Les mises au point que l'on doit notamment à Enrique Moradielos ont établi des données sûres. Alors, je peux vous donner quelques chiffres. Pour l'armée républicaine, l'aviation a disposé pendant la totalité de la guerre d'environ 1000 avions. Or, sur ces 1000 avions, les 2/3 au moins étaient d'origine soviétique. Pour les forces nationalistes, qui ont disposé pour la durée de la guerre de 1500 avions, 90% étaient italiens ou allemands. L'Italie fasciste a envoyé près de 80 000 hommes, dont 43 000 venant de l'armée régulière. Et du côté allemand, on estime à 19 000 le nombre de soldats allemands qui ont été mis au service de la cause nationaliste tout au long de la guerre. Et pour être complet, il faut rajouter 10 000 soldats portugais et un petit contingent de 700 Irlandais. Donc au total, presque 108 000 soldats et officiers étrangers qui prêtent main forte à Franco. Je dis Franco pour aller vite. Et à ce camp nationaliste, il faut ajouter les 70 000 Marocains qui faisaient partie des troupes régulières indigènes de l'armée espagnole, mais qui, naturellement, ne peuvent pas être tenus pour espagnols. On voit donc combien le camp nationaliste a bénéficié d'un appui extérieur très important. Le déséquilibre est considérable par rapport aux républicains, puisqu'on estime qu'ils ont reçu le renfort entre 35 000 et 42 000 brigadistes internationaux et au moins 2 000 conseillers militaires soviétiques. Sur le plan politique, l'investissement du théâtre espagnol par les puissances fascistes et l'Union soviétique change la donne et la nature de la guerre. Celle-ci, sans cesser d'être espagnole, devient le signe d'un autre combat. Et les Espagnols l'ont parfaitement perçu. Je vais me permettre de citer un peu longuement le témoignage de Manuel Chavez Nogales, qui est un journaliste directeur du quotidien républicain Ahora, et qui représente le centre-gauche, et qui quitta l'Espagne tout début 1937, qui est venu se réfugier à Montrouge, puis qui ensuite est parti en Angleterre et au Chili, et dont on est en train de redécouvrir toute l'œuvre, et qui est publiée en français. Dans le récit qu'il donna à la presse mexicaine à l'automne 1938 de la bataille de Madrid, il dit exactement ce que fut la guerre civile espagnole et le croisement des logiques internationales et des drames nationaux dont elle fut le produit. Je cite « Le destin a voulu que les deux matérialisations modernes de la bestialité humaine, le fascisme, le communisme, s'affrontent à la cité universitaire. » Il parle de la bataille de Madrid en novembre 1936. Pour être facile, le symbole n'en est pas moins fort. Chacun, de part et d'autre, se réclame de la culture et de la civilisation et voit dans l'adversaire l'unique force de destruction, la véritable puissance du mal. Impossible pourtant de voir dans un Kabyle issu des confins du désert barricadé derrière une fenêtre de l'hôpital clinique, sans plus de valeur à ses yeux qu'un escarpement des montagnes de l'Atlas, le dépositaire ou même le simple défenseur de la civilisation occidentale. Pas plus que dans un analphabète extirpé de quelques mines balkaniques postées, fusil-mitrailleur au poing, dans la bibliothèque de la faculté de philosophie et de lettres. Mais il en fut ainsi. Les glorieuses armées qui ont lutté à la cité universitaire rassemblaient la racaille du monde entier. Mais était-ce tout? N'y avait-il pas aussi de part et d'autre des Espagnols? Oui, c'est exact. C'est malheureusement exact. Des hommes d'Espagne, d'authentiques représentants de notre vieille race, les meilleurs peut-être, les plus forts, les plus honorables, sont tombés aux portes de Madrid, assassinés non par les balles de fusils étrangers, mais par l'infinie stupidité d'Espagnols qui ont attiré en Espagne les puissances destructrices d'Europe, les forces du mal, les haineuses et monstrueuses conceptions nées de cette nouvelle barbarie qu'est l'État totalitaire, rouge ou blanc, communiste ou fasciste. Septembre 1938, ce diagnostic posé. Il est temps de conclure. L'état de guerre a été proclamé dans le camp nationaliste dès le 18 juillet 1936 et il ne sera aboli que dans le courant de l'année 1948 pour la totalité de l'Espagne. Donc là encore, on a un problème de chronologie de la guerre civile, 36-39 ou 36-48, et puis même pour certains jusqu'en 1975 à la mort de Franco. La loi dite de responsabilité politique de février 1939 établit l'arsenal juridique qui rendra la répression franquiste possible. Tout militant dans des organisations politiques ou syndicales hostiles au soulèvement et à la croisade peut faire l'objet d'un jugement. C'est à ce titre de cette loi de 1939, que le dirigeant communiste Julián Grimau sera condamné à mort et exécuté en 1963, malgré l'élan international qui implorait la clémence de Franco. En 1964, Franco célèbre ses 25 ans de pouvoir avec le slogan « 25 ans de paix ». Sans entrer dans le récit douloureux de la guerre, elle est quand même convoquée dans la mémoire des Espagnols pour mieux faire ressortir le bilan du franquisme. À sa mort, en novembre 1975, le général Franco est enterré dans la basilique mausolée de la vallée de Los Caídos, dont il avait ordonné dès 1940 la construction et qu'il avait inaugurée en 1959. Il gît aux côtés de José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Falange, mort le 20 novembre 1936, dans les prisons républicaines. Enfin, il faudra attendre le samedi saint de 1977 pour que soit légalisé le Parti communiste espagnol, qui participera donc aux élections libres du 15 juin suivant. Autrement dit, l'Espagne est sortie progressivement de la guerre civile. Les Espagnols ne sont pas sortis en même temps de cet affrontement. Les vainqueurs ont imposé leurs lois, La victoire, symbolisée par des monuments, stèles, arc de la victoire à Madrid, statue équestre de Franco, nomenclature des rues, était une sortie de guerre. Pour les vaincus, la défaite présenta plusieurs options, toutes dramatiques. Pour certains, la mort, à cause de la répression, on estime, et on n'est pas d'accord sur les chiffres, entre 25 000 et 250 000. Le curseur est flou. Hein. Pour d'autres, l'exil, qui en France, qui en Amérique latine, qui en Union soviétique, c'est le cas des enfants qui ont été et qui ont vécu quand même une vie difficile. Pour beaucoup, le silence et une sorte de mort civile. Pour quelques-uns, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'engagement dans un combat antifasciste. Et je vous rappelle que les premiers tanks, les premiers chars qui sont entrés dans Paris étaient tenus par des combattants républicains. Le régime, vous le savez, ne fut pas clément et la réintégration des vaincus dans la communauté nationale ne fut jamais l'objet d'une décision politique. Pour les vaincus, la guerre était plus suspendue qu'elle n'était finie. La prise de conscience que cette guerre était finie fut lente et douloureuse. Elle fut le fait de nouvelles générations de militants. Et si un homme comme Georges Samprin, né en 1922, avait déjà soufflé cette idée à Alain René, qui en fera un film en 1969, « La guerre est finie », c'est plutôt la génération des enfants de la guerre, nés entre 1932, je pense à Adolfo Suárez, et en 1942, comme Felipe González, qui prendra conscience du changement d'époque. Et entre Adolfo Suárez, 32, Felipe González, 42, il y a Juan Carlos, le roi d'Espagne, 1938. Ce sont ces hommes et ces femmes qui, sous la conduite du roi, assumeront la responsabilité de la reconstruction démocratique de l'Espagne à partir de 1976. Ensuite, de 1986 à 2002, le Parlement espagnol a régulièrement voté à l'unanimité des déclarations condamnant le coup d'État militaire de 1936. Mais plus que ces gestes, qui sont quand même un peu dérisoires, il faut dire les choses telles qu'elles sont, je me souviens même une fois Felipe González nous expliquant à Madrid que Franco était quand même mort dans son lit. Et donc il dit, maintenant, si on retire les statuts de Franco, c'est quand même un peu tard. Plus que ces gestes, ce qui est intéressant, c'est la culture démocratique espagnole, qui se pensa délibérément comme le contre-pied exact de la culture politique des années 30. Et la notion de consensus fut alors l'étoile polaire du débat. Pour autant, depuis une vingtaine d'années, un nouveau phénomène générationnel se manifeste, celui des petits-enfants qui réclament un droit au souvenir. Ce sera la mobilisation sociale, culturelle et politique autour de la notion dite de mémoire historique qui aboutira en 2007 au vote d'une loi dite, je cite, « de mémoire et réparation des victimes de la guerre civile et du franquisme ». Elle comporte essentiellement deux volets, l'aide de l'État à l'identification des corps qui reposent encore dans des fosses communes et que l'on s'attache à identifier pour permettre ensuite l'ensevelissement de ces corps dans des conditions dignes. Et le deuxième volet, c'est la dépose de tous les symboles qui portent en eux le souvenir du franquisme. Statues, monuments aux morts, noms de rues. Alors, l'affaire ne fut pas simple et elle mobilisa une bataille d'opinion dans laquelle les relectures de la guerre civile semblaient remettre au jour des camps intacts. Ce souvenir de la guerre est aujourd'hui devenu un enjeu politique qui oppose droite et gauche ou, pour le dire plus précisément, est instrumentalisé par la gauche contre la droite espagnole. Et pour les plus radicaux, la transition démocratique devait être mise en accusation car elle avait été contrainte par l'appareil d'État franquiste. Elle fut un compromis et une amnistie des criminels et non la renaissance de l'Espagne assassinée en 1936. Tout le mouvement dont on parle beaucoup en ce moment dans la presse Podemos, cette gauche radicale espagnole qui est en train et tient cette thèse. Vous le voyez, la guerre civile est bien née d'événements protéiformes dont l'analyse ne cesse de pouvoir être prolongée. Mais pour conclure et pour apporter des éléments pris de cette étude au débat, je formulerai trois questions et terminerai sur une toute petite synthèse. Première question. La définition de l'événement dépend de la séquence chronologique qu'on lui assigne. Et donc, jusqu'où est-il raisonnable, en amont et en aval, de situer la guerre d'Espagne? Deuxième question. La signification de l'événement transforme la lecture que l'on fait de l'histoire contemporaine de l'Espagne. Jusqu'où est-il raisonnable de le faire? L'Espagne se réduit-elle à cet événement? Troisième question. La guerre civile a dépendu de l'environnement international. Jusqu'où fut-elle une guerre civile? Jusqu'où fut-elle une guerre internationale? Et enfin, S'il fallait repenser le classement de la guerre civile espagnole dans la typologie que vous avez proposée, ben, je dirais qu'elle fut une guerre paysanne, sans aucun doute. Elle fut une guerre sauvage. Et songez au texte de Mauriac de l'été 1936 contre les massacres de Badajoz, ou bien sûr au grand cimetière sous la lune de Bernanos. Elle fut une guerre de religion. Elle fut une guerre révolutionnelle. Et, c'est ce qui vous occupera demain matin, elle fut aussi une guerre constructive. C'est peut-être un peu polémique de le dire, mais avec l'avènement d'un ordre stable, le franquisme a fondé un nouvel État espagnol. Voilà, alors il ne faudrait pas que je fasse de la guerre civile espagnole l'alpha et l'oméga des guerres civiles, je ne voudrais pas tirer la couverture à cette étude de cas, mais on voit bien effectivement qu'elle pose toute une série de questions, et donc qu'il était légitime d'essayer de l'étudier dans le cadre de ce colloque.
Merci pour cet exposé très, très brillant, très riche. Je vous ai très fécond en questions. Et tout de même, vous avez suggéré des réponses. Il est déjà 6h moins le quart. Donc, quelques questions, en espérant que vous ne nous engagerez pas dans un débat qui risque d'être indéfini. Non, c'est M. Bourgeois qui a levé le doigt le premier.
Merci. Non. Alors, une remarque et une question. Vous avez évoqué la déliquescence de l'État espagnol, la période où a éclaté la guerre civile. Il y a un philosophe espagnol qui enseigne à l'Université autonome de Madrid, Félix Luque, qui a publié un article récemment dans la revue de métaphysique et de morale française consacré à la nation. Et sa thèse est la suivante, l'Espagne, la nation qui n'en est pas une. Il évoque l'emploi fréquent dans les siècles passés de l'expression « les Espagnes ». Pour lui, par conséquent, s'il n'y a pas eu d'État espagnol, c'est parce que plus profondément, il n'y avait pas de nation espagnole. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que la guerre civile dont vous venez de souligner qu'elle a eu quand même, dans le bilan, un effet positif, quelques effets positifs, est-ce que la guerre civile espagnole, en étant une guerre supra ou trans-provinciale, même si elle était en partie provinciale, la Catalogne, par exemple, était rouge. Est-ce que la guerre civile espagnole, en étant supra-provinciale, n'a pas, dans la division entre les bleus ou les blancs et les rouges, favorisé, dans la négativité, mais favorisé quand même, l'émergence d'une nation espagnole.
Monsieur le Président, ce n'est pas tellement une question qu'une observation. Oui. D'ailleurs, je peux y renoncer. Alors, il vaut mieux que Monsieur Palistrandi réponde d'abord à Monsieur Bourgeois. Si.
Je ne voudrais pas que vous rentriez chez vous frustré. Enfin.
Oh, non. Non, de toute façon, je suis comblé par le colloque, bon. Monsieur.
Alors, c'est une question énorme que vous posez. En réalité, je vais vous répondre, vous avez cité un philosophe, je vais vous répondre avec un homme d'État, Bismarck, qui disait « La nation espagnole est la plus solide au monde, voilà 5 siècles que les Espagnols essayent désespérément de la détruire. » Et elle tient. Alors, je ne sais pas si la formule est tout à fait vraie, mais ce qui est tout à fait passionnant, c'est de voir combien elle est en train de revenir dans la presse espagnole et dans le débat politique en ce moment même, à cause des questions catalanes. Alors, pour être plus sérieux, effectivement, cette question de l'articulation nation-État est assez complexe, car si l'État espagnol est relativement faible au moment de la guerre civile, au point effectivement de pouvoir être investi par des forces contradictoires, et même l'armée qui se divise, il est quand même peut-être excessif de croire à sa faiblesse ontologique. L'État espagnol est en construction. La République n'a pas eu le temps, mais si la République avait eu le temps, elle aurait emprunté au modèle français d'éducation centralisée et, faisons l'histoire fiction, une République qui fonctionne en Espagne, vous n'avez pas aujourd'hui la Catalogne et le Pays Basque. Vous auriez une autonomie, mais dans les statuts d'autonomie que donne la République à la Catalogne et au Pays Basque, il n'y a pas la compétence de l'éducation. Alors qu'en 1977, quand il y a la négociation entre le gouvernement et les forces nationalistes, ils vont lâcher, et les nationalistes catalans n'en reviennent pas, ils lâchent la compétence de l'éducation. Ce qui vous explique pourquoi aujourd'hui les Catalans parlent catalan et il y a une identité aussi forte. Alors, après, effectivement, l'idée d'une nation au pluriel est complexe parce que le libéralisme espagnol qui est né à Cadix pense l'unité de la nation espagnole. Et ce n'est que très progressivement que un certain nombre de forces, notamment en Catalogne, mais aussi au Pays Basque, faisant tout un travail d'exhumation culturelle et linguistique, qui date des années 1860-1890, vont réinventer une nation catalane. La nation catalane existe-t-elle vraiment? C'est une question à ne pas poser dans tous les endroits, mais c'est quand même une reconstruction historique. Et là où on se trouve, c'est qu'on a le choc entre deux conceptions, c'est-à-dire, est-ce qu'effectivement une nation existe par la volonté de ceux qui veulent la faire vivre, ou est-ce qu'elle existe archéologiquement, historiquement, institutionnellement? De ce côté-là, à ce moment-là, la réponse, c'est la couronne d'Aragon. Et il faut dire aux Catalans de reprendre tout ça, parce que sinon, la Catalogne indépendante, c'est en l'an 1000. Et par ailleurs, l'Espagne, effectivement, n'a pas exploré la possibilité d'une constitution fédérale. Quand elle l'a fait en 1873, ça a complètement échoué. Alors même que la monarchie d'Ancien Régime, en Espagne, c'est une union des couronnes. Et que ça aurait pu ensuite aboutir à cette question, enfin à une possibilité fédérale. Et alors, si vous retournez en 1810 à Cadix, il y avait la difficulté de l'empire colonial et donc de la représentation de ces Espagnols. Donc de ce côté-là, l'indépendance a un peu simplifié les choses. Ils ont pu se remettre sur la péninsule. Mais c'est effectivement la question de fond sur la nation, l'État, les États. Et encore, on le voit aujourd'hui, les communautés autonomes critiquent l'État central ou critiquent l'État, mais l'État leur rappelle quelles sont la forme de l'État dans leur région.
J'aimerais faire une remarque sur les origines. Si vous voulez. Les historiens sont très facilement victimes de ce que je crois être une illusion, à savoir que des causes ont l'effet que l'on essaie d'expliquer. Je crois que la démarche doit être l'inverse. Il y a un effet qui ne produit pas les causes, mais qui éveille les causes dans leur capacité de causalité. Autrement dit, ce qui permet aux causes de passer du virtuel à l'acte. J'avais regardé ça à propos de la guerre de Vendée, enfin, où aucune explication générale ne vaut. Ça marche, bon. Par contre, si on part d'accident, tout simplement un accident, enfin des gens qui ont pris une mauvaise décision à un moment donné, et ça prend, et alors là, on voit progressivement les causes les plus profondes et les plus lointaines se mettre en marche, si vous voulez. Bon, je simplifie, et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi pour l'Espagne.
Complètement, et l'incident qui provoque le coup d'État, c'est l'assassinat le 13 juillet 1936 du leader de droite, José Calvo Sotelo, qui avait été ministre des Finances de Primo de Rivera. Et vous avez tout à fait raison. La difficulté, c'est qu'après, il a fallu, c'est-à-dire qu'il y avait un enjeu politique dans l'historiographie, dans cette recherche des causes, parce qu'effectivement, la cause allait désigner le coupable, ou les bons et les méchants. C'était une histoire binaire, et qui a longtemps été binaire.
Toutes ces questions sont passionnantes et bien entendu n'aboutissent jamais à une conclusion qui serait définitive, à moins que François Stomme ne l'ait trouvée.
I would say the main thing that people think of now is the incompetence of the Kuomintang, That's the first thing. The second thing, which was hidden for a long time, is the not just the aid of the Soviet Union, which was mainly military, but the enormous amount of Japanese weaponry, not just weaponry, but also trucks and cars and aeroplanes that the communists got. But then on top of that, they had some really wonderful, well, not wonderful, but some very, very competent generals. And the Kuomintang had a large number of very incompetent generals. So if you look, it was really a military victory. And the role of the peasantry even was enormous, but only in assisting the military victory. One of the main things that they did was they had, again, always these huge numbers, hundreds of thousands of porters carrying weapons and carrying food to the soldiers. But they also got a lot of their soldiers from what were called the puppet armies of the Japanese. So these are all factors which are coming out now, which were hidden for a long time. The official view for a long time was that it was entirely due to the Red Star in our hearts, Mao Zedong, that the victory had come. And in fact, I talk about it in the book, but not this time. In the immediate aftermath of the accounts, they actually restaged a lot of the battles that they'd fought the year before to be filmed by Soviet filmmakers. And in those battles, they even used the same Kuomintang generals who were in prison. They were allowed out of prison to make the movies. But everything was Mao, 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 with these huge pictures of him, which didn't actually, they didn't go into battle with pictures of Mao in front of them, but in the films they did. This is still, to me, the great strangeness of every reconsideration there's been of Chinese history, which are enormous, particular not just on the mainland, but Mao Zedong still hangs on the Tiananmen Gate. And somebody asked me once, what's your great hope? And I said, I hope I live long enough to wake up one morning and find that his picture has gone.
Thank you. Bon, eh bien, je crois que nous avons mérité de rentrer chez nous, de reprendre souffle, de recharger les accus pour nous retrouver demain matin pour une journée longue et très certainement aussi riche que celle d'aujourd'hui et celle de hier.